comme tu peux, après l'enregistrement, ils disent là, on t'a averti quand tu vas avoir la diffusion. C'est quand même un laps de temps entre l'enregistrement et la diffusion. C'était au mois d'avril, la diffusion était au mois de juin. Ils nous préparent en disant, il y a une vague. Il faut que tu sois prête à répondre à la vague. Mais c'est dur à quantifier. Tu te dis, OK, la vague, ça va être quoi? Ça va être un pic de vente la journée même de la diffusion, ce qui a été le cas. Mais c'est une vague aussi de plein de gens qui t'approchent. C'est des gens qui veulent autant de vendre des boîtes de shipping, des gens qui veulent travailler pour toi, mais des boutiques, beaucoup de points de vente qui nous approchaient, qu'il fallait comme que je gère cette demande-là. Il y a comme un engouement, vraiment une vague, là, comme vraiment après la diffusion, la semaine suivante, l'autre semaine d'après. Là, c'est des vagues de commandes à traiter. Ça a été vraiment fallu que j'embauche une employée pour m'appuyer pendant l'été, une représentante. Il a fallu bien s'entourer.
Mon nom est Antoine Gagneux et je vous souhaite la bienvenue au 46e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. L'émission Dans l'œil du dragon peut être une belle opportunité pour un entrepreneur afin d'aller chercher du financement externe. Maintenant, en plus de l'investissement, les gens participant à l'émission vont également jouir d'une tribune très importante. Au cours des dernières années, la fameuse émission sur l'entrepreneuriat a généré des cotes d'écoute importantes, atteignant des fois le million de visionnements par épisode. Mon invité du jour, Mélissa Lambert, fondatrice de Lambert Design, une entreprise québécoise qui vend des sacs en cuir chic et vegan, va nous parler aujourd'hui de l'impact que son passage a pu avoir sur son entreprise. Maintenant, important de ne pas se tromper, un passage devant les 5 dragons va vous donner un coup d'accélérateur. Mais c'est par la suite votre responsabilité en tant qu'entrepreneur de maintenir cette croissance et c'est exactement ce que Mélissa a pu accomplir. Sans plus attendre, ma discussion avec Mélissa Lambert. Mélissa Lambert, tu es la présidente de l'entreprise Lambert Design, une entreprise québécoise qui vend des sacs en cuir vegan et chic en ligne et en magasin. L'entreprise a été fondée en 2017 et dans les dernières années, ton organisation est passée en hypercroissance en multipliant par plus de 10 votre chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Mélissa Lambert, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, bonjour.
Mélissa, l'objectif du podcast aujourd'hui est de comprendre vraiment l'élément déclencheur qui a pu permettre à ton entreprise, Lambert Design, comme on le mentionnait plus tôt, de grandir aussi rapidement. On a vu des discussions, toi et moi, au téléphone, puis tu me disais que dans les dernières années, les choses ont été très rapides, sont allées très, très vite. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous dire un petit peu, ça a été quoi la genèse de la création de ton entreprise en 2017?
Oui, ben en fait, c'est parti vraiment d'un projet personnel. J'étais à la recherche moi-même, étant enceinte de mon deuxième enfant, d'un sac de maternité qui était à la fois chic et pratique. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à réfléchir à comme un projet d'affaires. Je me disais, je pourrais créer les sacs que moi, j'aurais envie de porter. Donc, j'ai travaillé avec une jeune designer montréalaise pour vraiment comme commencer à travailler sur 3 différents modèles. Puis mon modèle d'affaires au départ, mon idée, c'était vraiment de les vendre seulement en ligne. Et j'avais quand même un travail à temps plein, donc je me disais, ah, ça va comme être un projet on the side. Puis, dans le fond, j'ai travaillé sur mon projet de mon congé de maternité, puis j'ai lancé, dans le fond, en septembre 2017, ma boutique en ligne. Et c'est là que j'ai réalisé que, il y avait vraiment un engouement vers mes produits, mais que vu que c'est un nouveau brand, les gens, ils voulaient quand même toucher, voir la qualité du produit. Donc, il y avait comme un facteur qui manquait. J'ai commencé à faire un petit peu de vente itinérante, dans le fond, aller montrer dans des bureaux de travail le midi, les sacs, les gens achetaient. Fait que ça a vraiment été un élément quand même déclencheur. On était des super de belles ventes, puis après les fêtes, là, j'étais vraiment épuisée, puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, je pouvais pas continuer à travailler, puis continuer à faire ça si je veux vraiment bâtir une vraie entreprise, un brand fort, puis continuer à profiter de la vague qu'on avait. Alors, c'est là que j'ai décidé de quitter vraiment mon emploi puis de me consacrer à temps plein dans cette entreprise-là. Puis, ça a été aussi peut-être le passage à l'émission Dans l'œil du dragon là, qui a vraiment été un gros catalyseur aussi pour nous.
Puis c'est ça, L'œil du dragon, ça a été en 2018. Puis parlons un petit peu de l'avant et de l'après, parce que il y a beaucoup de nos clients, beaucoup de gens qu'on côtoie qui sont allés, puis des fois, il y en a qui ont eu des offres, d'autres qui n'en ont pas eu des offres, mais souvent, habituellement, ça a donné une très belle visibilité à leur organisation. Parlons un petit peu de à quoi que ressemblait ton organisation avant l'expérience, puis par la suite, quels ont été les effets, on va dire, collatéraux de cette émission de télé.
En fait, avant l'émission Dans l'œil du dragon, j'étais seule. C'était vraiment moi qui étais à la boutique, faisais toutes les opérations, là, vraiment répondre au téléphone, les shipping. Donc, j'étais seule à mon entreprise. Là, quand j'ai commencé à me préparer, parce qu'ils te préparent un petit peu après l'enregistrement, ils disent là, on t'avertit quand tu vas avoir la diffusion. C'est quand même un laps de temps entre l'enregistrement et la diffusion. C'était au mois d'avril, la diffusion était au mois de juin. Ils nous préparent en disant, il y a une vague, il faut que tu sois prête à répondre à la vague. Mais c'est dur à quantifier. Tu te dis, OK, la vague, ça va être quoi? Ça va être un pic de vente la journée même de la diffusion, ce qui a été le cas. Mais c'est une vague aussi de plein de gens qui t'approchent. C'est des gens qui veulent autant de vendre des boîtes de shipping, des gens qui veulent travailler pour toi, mais des boutiques, beaucoup de points de vente qui nous approchaient, qu'il fallait comme que je gère cette demande-là. Il y a comme un engouement, vraiment une vague, là, comme vraiment après la diffusion, la semaine suivante, l'autre semaine d'après. Ça, c'est des vagues de commandes à traiter. Ça a été vraiment fallu que j'embauche une employée pour m'appuyer pendant l'été, une représentante. Il a fallu bien s'entourer. Puis rapidement, j'ai été un petit peu dépassée, là, rendu comme à la rentrée au mois de septembre. C'est là qu'il a fallu que je prenne une décision qui a été quand même cruciale, je dirais, dans justement la croissance, l'hyper-croissance de mon entreprise. Ça a été de donner vraiment une tierce partie, un 3PL qu'on appelle en jargon, tout le volet shipping. Donc, c'est eux vraiment qui reçoivent la marchandise, traitent toutes les commandes. On n'a plus ce volet-là, à se soucier de ce volet-là. Par manque d'espace, par manque de temps. C'est une décision stratégique. Moi, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur les choses super importantes, le service à la clientèle, le développement des affaires, puis de laisser la partie comme shipping vraiment à des experts qui font ça dans la vie.
Intéressant. Puis je vois ça de plus en plus devenir à la mode de faire ça. Et j'imagine que du moment que tu as été capable de déléguer ça de ton côté, toi, tu as des forces. On a toutes des forces et des faiblesses des entrepreneurs. Donc, automatiquement, quand tu délègues quelque chose comme ça, toi, tu es capable d'arriver puis de te concentrer à 200% de tes forces. Et t'as-tu vu par la suite une augmentation, un pic encore plus d'achalandage encore plus fort du moment que tu as pu te consacrer vraiment à ce que tu étais la meilleure, c'est-à-dire, j'imagine, marketing, développement des affaires, comme tu as dit?
Ben, en fait, ça l'a toujours continué à croître de façon très intense. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, on est comme déjà une équipe de... J'ai engagé encore une personne la semaine passée, donc on est rendu 6 personnes. C'est sûr que moi, dans le fond, j'essaie toujours de voir ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur. Souvent, c'est de laisser aller des choses, surtout des choses qu'on aime faire. Moi, je suis une fille qui aime la gestion de marque, le marketing, tout ça. Fait que il fallait que je laisse aller cette portion-là. Ça, c'est difficile, mais c'est essentiel pour être capable de grandir. Il faut que tu t'élèves, que tu penses à d'autres choses, à la croissance, plus côté financier, fiscalité, tout ça. Il faut comme en développement de marché. Il y a comme plein de choses à laquelle il faut penser. Et dans le fond, plus je me concentre là-dessus, plus que c'est sûr que l'entreprise peut grandir et mieux performer. Puis, c'est la partie qui est difficile, je trouve, un petit peu de laisser aller. Puis maintenant, j'essaie de souvent me poser la question, puis même je fais la réflexion aux gens de l'équipe. Je dis, est-ce que j'ai de la valeur à faire ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à ma place? Si quelqu'un d'autre peut le faire à ma place, j'ai pas de valeur. Moi, il faut que je fasse d'autres choses. Fait que j'essaie de me détacher des opérations un petit peu pour dire, regarde, t'es capable. Parce que les filles, des fois... On travaille très proche, puis ils me regardent, puis ils vont me dire, mettons, oh, qu'est-ce que t'en penses, ou tu sais, puis des fois, je m'implique, puis je me dis, non, regarde, vous êtes capable de gérer sans moi, vous êtes assez, tu sais, vous avez assez de jugement, j'ai confiance en vous, go, puis moi, je me consacre à d'autres.
Interesting, j'adore ça. Puis c'est la seule manière, à un certain point, que tu es capable de grandir, si tu es capable de trouver des gens autour de toi que tu peux faire confiance et que eux vont, de leur côté, prendre des responsabilités. Moi, je voudrais savoir, tu disais au départ que tu voulais surtout te concentrer avec des ventes en ligne. C'est ce que vous avez fait dans les premiers mois, dans les premières années. Éventuellement, le shift a pas nécessairement changé, mais vous avez commencé à faire des ventes en magasin. En date d'aujourd'hui, on enregistre le podcast 23 septembre 2020. À quoi que ça ressemble? Est-ce que les ventes en ligne sont encore la grosse partie de votre business? Ou avec toute la visibilité que vous avez eue avec l'œil du dragon, les magasins qui vous approchaient pour distribuer vos produits, est-ce que finalement, tu as fait un petit peu davantage un chiffre puis tu t'es consacré davantage sur le briquet mortier?
Oui, c'est un gros shift en fait parce qu'on est quand même rendu avec 150 détaillants à travers le Québec, dont des gros détaillants comme Clément qui sont plus dans la maternité, qui offrent des vêtements pour enfants. Donc, mais ils ont la plupart de nos sacs et Sport Expert aussi qui est un autre gros détaillant. Il y a des Beaupieds, Chaussures Leclerc. Il y en a plusieurs qui sont quand même assez des clients majeurs. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup au niveau du ratio des ventes. On est rendu, je dirais, à peu près, mettons, quasiment half and half. Vraiment vente en ligne et vente détaillante. Donc ça, c'est quand même un challenge parce que j'avais pas bâti nécessairement ma business dans cet esprit-là, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment comme un bel équilibre d'avoir autant des ventes en ligne que des gens qui continuent, qui veulent voir le produit avant de l'acheter ou qui vont magasiner puis qui découvrent la marque. Ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est vraiment quand même une belle force qu'on a d'avoir ce pourcentage-là au niveau des détaillants également.
Puis, je suis curieux, à quel point dans la tête d'un entrepreneur ici, et également peut-être dans ses opérations day-to-day, ça a changé ta manière de faire les affaires? Parce qu'on s'entend que diriger un commerce en ligne, mais là, surtout que là, maintenant, tu disais que le shipping n'est plus quelque chose que vous faisiez, mais c'est pas du tout la même chose qu'aller développer des points de vente. À quel point que ça a changé un petit peu, globalement, ta manière de gérer et d'organiser ton entreprise?
Ben, je dirais que moi, je suis moins impliquée à ce niveau-là parce que j'ai vraiment engagé une représentante interne. Fait que c'est vraiment elle qui gère tous les clients, vraiment tout ce volet-là. Je suis juste impliquée quand il y a vraiment des gros joueurs pour vraiment entretenir la relation. Mais sinon, c'est vraiment elle qui prend en charge ce volet-là. Fait que moi, je suis pas tant impliquée. Puis je trouve pas que j'ai tant de valeur non plus. Souvent, c'est les boutiques qui nous approchent. On est vraiment, vraiment chanceux. C'est souvent les détaillants qui nous approchent, qui veulent ouvrir un compte. On analyse l'ouverture du compte, on ouvre le compte, puis ça débute la relation d'affaires. Là où ça va être un gros challenge pour Lambert, pour moi, ça va être vraiment le développement au Canada. Parce que là, on veut essayer de répliquer la recette. On est déjà en train de mettre en place des stratégies, des tactiques là, pour vraiment développer. Puis ça va être difficile d'y aller juste en ligne. Fait qu'il va falloir que j'arrive à trouver aussi soit la bonne personne, soit que moi j'aille cogner à des portes, à des gros détaillants au Canada pour qu'ils veuillent essayer de tester, rentrer nos produits, puis qu'on ait le même success story, puis le même fit avec un certain ratio vente en ligne et vente détaillante. Ça va être ça mon gros défi 2021.
Puis là, d'ailleurs, est-ce que là, on est à l'automne présentement, est-ce que ce développement pan-canadien-là, là, dans le Rock, dans le reste du Canada, est-ce que c'est déjà enclenché un petit peu de votre côté? Avez-vous déjà fait des premières initiatives?
Oui, on a déjà commencé plus au niveau publicité, là, Facebook, Instagram, ça sur les réseaux sociaux, Google Ads. Fait que ça, on a déjà commencé en ligne, mais on voit que ça va être difficile. Alors, dans le fond, on a fait des stratégies un petit peu avec des influenceurs pour commencer à juste comme faire connaître un petit peu le brand là-bas, avoir une première présence, mais c'est sûr qu'on va prendre plus que ça. Donc là, c'est une grosse offensive. On fait un lancement média. Des médias partout au Canada, dans le fond, virtuels, la semaine prochaine, avec un styliste qui est très connu au Canada, Carrie Tobin, qui a fait d'ailleurs l'émission XOXO au Québec, mais qui est très connu au niveau du Canada. Puis ça va vraiment nous aider à nous donner beaucoup de notoriété, à nous faire connaître, dans le fond, plus justement au niveau des médias, là, un petit peu partout à travers le Canada. Puis après, ben, le next step pour moi, après, une fois que les gens commencent à parler de ta brand, c'est où est-ce qu'ils peuvent le voir? Où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Est-ce que les gens, ils vont assez faire confiance pour commander une première fois en ligne? Moi, je pense que ça va quand même prendre certains points de vente où les gens vont pouvoir déjà aller toucher, voir le produit avant de peut-être convertir à l'achat. Fait que ça, c'est le défi, je dirais, urgent là, que j'ai dans mon plan, que je dois relever.
Intéressant. Puis là, tu disais que présentement, bon, tu avais une représentante interne qui s'occupait de tes points de vente au Québec, de ton entreprise qui va s'occuper de tout le shipping. Présentement, si disons, on enlève un petit peu tous les volets opérations qu'on vient de discuter, au day-to-day, là, mettons du lundi au vendredi, le travail de Mélissa Lambert, ça va ressembler un petit peu à quoi pour faire grandir son entreprise?
Oh là là, c'est une bonne question. C'est très varié. Les lundis, je m'assure toujours d'être à la boutique. Fait que vraiment, parce que notre boutique, c'est aussi nos bureaux, c'est comme notre boutique atelier. Fait que ça, toute l'équipe, on se réunit, bon, dans les mesures sanitaires, là, on est juste 6 qu'on peut respecter avec nos beaux masques Lambert et tout. Fait que je vais à la boutique tous les lundis. Fait que pour moi, c'est le moment où est-ce qu'on fait un récap. C'est quoi les ventes, où est-ce qu'on en est, c'est quoi l'inventaire. On se fait comme un statut d'équipe, c'est quoi les priorités de la semaine. J'aligne les filles, j'aligne les opérations. Si les filles ont besoin de me parler des one-on-one, je suis là pour elles. Fait que souvent, c'est comme une grosse journée pour nous les lundis. Ensuite, souvent le mardi, j'aime ça travailler moi-même vraiment comme plus de chez moi pour vraiment enclencher. Moi, dans le fond, je m'occupe aussi de toute la production. On essaie de diversifier la production un petit peu à l'international. C'est quoi les nouveaux modèles? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le planning? Les marchandises qui sont des fois en transit, que là, mettons, il y a un problème, que j'aide à libérer ça au niveau de la douane. T'sais, il y a comme plein d'opérations où je vais m'ingérer. Là, on arrive à la fin d'année financière, des rencontres avec le comptable, le fiscaliste. Comme là, notre agence nous a dit qu'il permet, malheureusement, notre agence s'occupait de toutes nos publicités Facebook, Instagram et tout ça. Là, ça, c'est comme, il faut se revirer de bord en comme 2 semaines, trouver une nouvelle agence, faire des appels d'offres. Je fais des appels. Autant que ce matin, les filles m'ont dit, peux-tu aller chez IKEA parce qu'on fait demande des chantiers en fin de semaine puis il manquait des racks. Là. Je fais encore ce genre de petites opérations-là pour les aider, mais c'est sûr que, comme je dis, j'essaie de me dégager de ce genre d'opérations-là pour être vraiment plus au niveau stratégique, voir c'est quoi qui s'en vient, faire la planif 2021, c'est quoi nos projections de vente l'année prochaine, combien d'inventaires ça va prendre, on est en bonne position, engager du nouveau personnel. Tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est vraiment varié. Mais c'est sûr que j'essaie d'être quand même présente aussi à la boutique pour voir ce qui se passe, puis être avec les filles, puis d'avoir quand même du plaisir puis un esprit d'équipe. Là. C'est sûr que c'est ça aussi le but de mon travail. Je me suis créé quand même une job de rêve. Fait que pour moi, l'important, c'est aussi d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, @ J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Ben, j'adore ton énergie, mais à t'entendre parler, c'est clair qu'on peut sentir que tu as du plaisir de raconter tout ça, même si c'est des beaux défis, des beaux challenges. À la fin de la journée, si on aime ce qu'on fait, on compte plus les heures, puis c'est là que ça devient intéressant. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, tu en as parlé également il y a quelques minutes, vous n'êtes pas une grosse équipe, mais vous avez eu une croissance assez forte. Et si on faisait des ratios, là, toutes choses étant égales, vous devriez, j'ai quasiment le goût d'utiliser ce terme-là, être plus en regardant un petit peu les revenus et la croissance bon que vous avez eue. Moi, la question que je te pose maintenant, de plus en plus, on dirait qu'il y a des entreprises, spécifiquement des entreprises qui vont davantage vendre en ligne, qui vont bâtir un écosystème de gens qui travaillent dans cette organisation-là qui est pas tellement élevé. Je te donne un exemple. Il y a une dame qui est venue sur le podcast qui s'appelle Caroline Brousseau, qui est une entreprise qui génère dans les 7 chiffres à l'année une boutique en ligne. Elle est la seule personne qui s'occupe de cette boutique-là. Et elle est capable d'avoir des fournisseurs, des partenaires externes qui l'aident à amener son entreprise par en avant. Sans nécessairement faire de fausses comparaisons ici, parce que là, toi, t'as plusieurs employés, t'as l'air d'avoir une petite équipe. Moi, ma question que je voudrais te poser, c'est est-ce que toi, c'est ton objectif peut-être de grandir encore plus cette équipe-là ou le fait d'avoir une petite équipe, tu trouves que tu as plus de flexibilité puis au contraire, ça te donne la chance même d'aller plus vite?
C'est une excellente question parce que on vient de fêter nos 3 ans puis j'ai dit aux filles, on va écrire tout un petit mot de où vous pensez qu'on va être dans 3 ans parce que ça peut aller vraiment vite. Puis on dirait que je me suis mis à réfléchir, puis j'avais comme un petit pincement au cœur de me dire, hey, imagine si on grossit vraiment beaucoup, on ne pourra plus être dans les bureaux, je serai plus tous les lundis matin peut-être avec les filles, qu'on prend un petit café, qu'on jase dans notre fin de semaine. Peut-être que oui, mais plus tu grandis, moins tu as accès un peu comme à tes employés, que tu as des relevants idéalement en dessous de toi pour être capable de vraiment gérer du gros volume. Fait qu'on dirait que ça m'a fait un pincement. Je trouve qu'on est vraiment dans un beau sweet spot où on est une petite équipe, on a du fun, puis on gère quand même une business importante. Mais c'est sûr qu'en développant, on n'aura pas le choix. T'sais, c'est vraiment, t'sais, pour moi, le Québec, là, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire au Québec. Puis après, t'sais, sky's the limit. Là, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Canada. Puis plus on va grandir, plus que oui, ça va prendre du temps. Fait que t'sais, c'est de voir jusqu'où, en tant qu'entrepreneur, tu vas amener ta business. Comment tu sais quoi, c'est quoi toi ta vision, puis c'est quoi que tu as le goût de faire. Mais c'est sûr que moi, le Canada, c'est dans les plans là, puis c'est sûr qu'on y va, puis c'est sûr que j'embauche. Fait que je veux que tout le monde ait du travail, puis je trouve que il y a trop d'entreprises qui surchargent des employés, puis que Mané, t'as plus de plaisir, t'as trop. T'sais, t'arrives jamais, t'es comme tout le temps un petit canard, là, tu sais, puis tu n'arrives jamais à la fin de ta journée, tu pourrais travailler comme jour et nuit, puis je trouve pas ça motivant. Fait qu'il faut que tout le monde ait du plaisir au travail, qu'il ait assez de temps dans sa journée pour accomplir les tâches qu'il a là, à effectuer.
Intéressant, intéressant. Donc, je vois un petit peu, one step at a time, mais tranquillement, aussi dans la vision de continuer à grandir cette belle équipe-là. Question pas tellement originale, mais qui vaut la peine d'être discutée. On est dans une période qui a bouleversé beaucoup le commerce de détail les 5-6 derniers mois. Toi, tu as la chance, ou du moins, tu as bâti ta chance, on va dire ça comme ça, en ayant une boutique en ligne au départ qui, à mon avis, a dû grandement vous aider dans la période où est-ce que les boutiques étaient fermées. Moi, je te pose la question, Mélissa, comment tu as vécu le confinement? Comment que ça s'est passé pour Lambert, pour Design Lambert dans les derniers 6 mois, disons?
Ça a été un peu des montagnes russes d'émotions. Dans le fond, quand les gens ont commencé à me dire, toi, est-ce que ça t'affecte le COVID? Moi, ça faisait longtemps que ça m'affectait le COVID parce que ça a commencé en Chine, si on se rappelle bien. Et nos sacs sont fabriqués dans une manufacture à Guangzhou en Chine. Donc, moi, après le nouvel an chinois, donc déjà, sont fermés pendant plusieurs semaines. Ma manufacture n'a jamais réouvert. Donc là, j'étais plus capable de me approvisionner. Je savais pas quand, dans le fond, la manufacture allait rouvrir et j'ai vraiment déjà eu comme des sueurs froides. Déjà à ce moment-là, j'étais un petit peu en panique. Il fallait comme que je commence à trouver une solution advenant que la crise sanitaire s'allongeait en Chine. Heureusement, ils ont pu reprendre à plus petite équipe. Ça a été très difficile en Chine. Il y a beaucoup de manufactures qui ont fermé et tout ça, en tout cas. Parce que ça a été un premier volet. Le deuxième volet, c'est que j'ai fermé la boutique en ligne le 14 mars, quand que ça a été annoncé à la demande de notre premier ministre. Ensuite de ça, on a commencé à travailler toute la maison. Et puis, ce qui a été un peu épeurant, c'est que notre entrepôt nous a appelé pour dire « on ferme ». Là, j'ai fait « ok, c'est fini, là, genre je peux plus vendre en ligne ». Et là, j'essaie de trouver des solutions. Je peux aller chercher les sacs, faire les commandes de chez nous. Qu'est-ce que je fais? Et le lendemain, dans le fond, mon avocate, elle a pris l'initiative de nous écrire pour nous dire, non, tu continues d'opérer si vous respectez telle mesure sanitaire. Fait que notre entrepôt est comme réouvert avec des mesures sanitaires. Puis on a continué à opérer. Fait que ça nous a vraiment sauvé la vie. Et dans le fond, on avait des lancements prévus. On a lancé notre collection de printemps. Puis, on se demandait, on était mal à l'aise en tant que brand. J'étais comme, ça se fait-tu lancer une collection de printemps alors qu'il y a plein de gens, tu sais, qui se sont mis à pied, qui ont plus d'emploi, et que tout le monde est comme insécure. Puis, tu sais, je pense que les gens avaient besoin d'un peu quand même de soleil. Puis on a lancé une collection pastel, puis on a fait des super de belles ventes. Les gens avaient besoin, je pense, d'acheter, de se gâter un peu, de mettre un peu de couleur dans leur vie. Puis on a vraiment fait quand même des belles ventes en ligne. Fait que ça nous a permis de continuer à opérer. Puis, on a profité du fait que notre boutique était fermée pour toute la rénover. Donc, on a refait une beauté à la boutique pendant qu'elle était fermée. Donc, ça a été quand même, on s'en est bien sorti. C'est sûr qu'on a réajusté, je dirais que c'était quasiment semaine par semaine, on s'ajustait. Les filles me posaient des questions, je sais pas. On suit, on écoute les points de presse, puis on évolue avec la situation. Puis, c'est comme ça encore aujourd'hui. Parce que là, on sent qu'il y a une deuxième vague. Les gens sont inquiets, mes filles prennent le métro pour aller travailler, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer, il y a beaucoup d'inquiétudes, puis c'est sûr qu'en tant que président de l'entreprise, il faut que tu sois vraiment rassurante, puis t'as l'air en contrôle, même si toi-même, des fois, moi aussi, là, je t'inquiète, puis je le sais pas, mais j'ai confiance quand même qu'on va s'en sortir, puis c'est juste d'être tout le temps réactif en mode solution.
Ouais, effectivement, que s'il y a une chose qu'il fallait pas tant faire, bizarrement, hein, c'est rare qu'on va dire ça, mais c'est essayer de prévoir parce que tu fais face à des frustrations au jour le jour. Si tu essaies de dire, oh, ben là, garde, je prévois ça, mais au final, tu te fais couper l'herbe sur le pied à peu près à chaque jour quand il y avait des nouvelles mesures. Et tu le dis, vous avez un beau boom de vente en ligne. C'est une réalité que beaucoup de commerces en ligne ont connue. Hein. Il y a eu c'est assez normal d'un certain point. Les biens que tu achetais habituellement ne pouvaient plus être achetés en boutique, donc les gens, leur consommation a shifté un peu, ce qui a eu du bon pour certaines entreprises. Puis là, en date d'aujourd'hui, là, présentement, est-ce que tranquillement, même dans les derniers mois, est-ce que les ventes en magasin, t'as senti que ça leur pris un petit peu peut-être même comme avant la COVID, ou encore ça a été peut-être, tu sens que les gens, l'intérêt d'achat est peut-être un petit peu plus compliqué?
Au niveau des détaillants, surprenamment, ils ont refait, on dirait que ce sont réapprovisionner, fait qu'on a des belles commandes au niveau de nos détaillants, ça va bien. Je pense que les gens, en tout cas, moi, je vois les gens faire la file pour aller magasiner. Donc, je me dis, les gens, ils continuent de se déplacer. Par contre, à notre boutique à Montréal, c'est sûr qu'il y a une baisse d'achalandage. Les gens sont plus dans le quartier des affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en télétravail. Donc, là, il y a vraiment une baisse. Pour nous, c'est pas grave, vraiment, parce que, tu sais, ça sert de bureau aussi. Puis la boutique, elle demeure quand même ouverte pour ceux qui veulent venir nous voir. Donc, ça, c'est pas tellement grave, mais je sais qu'il y a des entreprises qui sont vraiment, vraiment affectées, là, dans certains domaines, puis, tu sais, qu'ils voient les pèses. Puis, tu sais, heureusement, nous, c'est parce qu'on est ligne. On a une petite boutique, on n'a pas tant de coûts fixes. Puis, bon, comme vous dites, ben, tu sais, je vends beaucoup en ligne, fait qu'on a réussi à s'en sortir bien. Mais on se croise les doigts pour que ça continue comme ça.
Non, effectivement, que ça peut bouger énormément, tu le dis, avec toutes les... On dirait que c'est en train de repartir ces temps-ci. Fait qu'on se croise les doigts pour que ça aille bien, mais bon, on ne sait jamais. T'as parlé un petit peu de la croissance. On en a parlé plus tôt des trois dernières années qui a été phénoménale. T'as dit avec ton équipe que vous essayez de visualiser un petit peu ce que les 36 prochains mois pourraient être pour votre organisation. Toi, personnellement, comment vois-tu cette entreprise-là? Tu as parlé du Canada, c'est quelque chose. J'imagine éventuellement tu voudras peut-être vouloir percer dans le sud. Donc, on parle peut-être des États-Unis ici. Est-ce que c'est une vision à terme, ça, de s'implanter et d'avoir un brand qui a une empreinte un peu plus globale?
Oui, pour la première raison à cette réponse-là, c'est que je pense que on va saturer à un moment donné au Québec. Tu sais, déjà, je suis surprise de voir qu'il y a des gens qui achètent 2, 3, 4 produits. Lambert. Fait que je me dis, plus qu'on sort de produits, plus qu'on peut continuer quand même à vendre dans le marché du Québec. Mais à un moment donné, j'ai comme un peu peur qu'on sature. Fait que c'est la raison pour laquelle il y a deux façons de croître une entreprise, développer plus de produits, développer des nouveaux marchés. Fait que moi, j'essaie de faire les deux. Donc, le Canada, ça, c'est sûr. Pour les deux prochaines années, ça va être notre focus. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Fait que oui, le marché des États-Unis, ça peut être intéressant, mais c'est aussi une jungle. Puis, il faut être bien préparé, il faut avoir les moyens financiers d'attaquer ce marché-là. Ça prend beaucoup d'argent pour développer un nouveau marché et des efforts aussi, là, du temps, du manpower en arrière. Alors, je suis pas là pour le moment, mais c'est sûr que, tu sais, si je vois vraiment à long terme, là, mettons Lambert dans peut-être 10 ans, oui, je vois ça aussi au marché au niveau des États-Unis. Puis, je veux vraiment développer l'offre. Tu sais, j'aimerais ça là, que Lambert, ça devienne vraiment, vous avez besoin d'un sac ou d'un accessoire fashion puis pratique, ce soit, c'est top of mind Lambert. On a été, avez-vous un sac? Oui, un messenger, oui, on en a. Avez-vous un étui à voyage? Oui, avez-vous un étui à passeport? Oui, on en a. C'est qu'on aille comme vraiment toute la gamme de ce que vous pouvez penser. Moi, j'ai déjà toutes mes idées de qu'est-ce que j'aimerais développer dans le futur. Fait que c'est comme de réussir à tout commercialiser ça puis d'avoir vraiment comme une offre super complète, là, pour répondre à tous les besoins.
J'adore ça. Mélissa, j'aime toujours poser des questions personnelles pour savoir un petit peu comment que les gens qu'on interviewe sur le podcast, ils vont, on va dire, s'éduquer, se garder à jour peut-être des dernières tendances business, entrepreneuriales et tout ça. Est-ce que tu lis un peu, toi? Est-ce que tu lis des livres d'affaires?
Je lis des livres d'affaires pour m'inspirer, ça c'est certain. J'ai beaucoup aimé le livre de Daniel Henkel parce que c'est une dragonne qui m'inspire beaucoup. Tu sais, je trouve qu'elle a vraiment bien réussi. Elle est partie d'un gain, un gain de crainte, puis elle est devenue vraiment... j'admire beaucoup aussi les gens qui sont vraiment partis un petit peu de rien, comme Alain Nicolas Duvernois, tu sais, qui est vraiment partie d'une idée, puis qui a bûché, puis a travaillé fort pour vraiment bâtir son empire, si on peut dire ça comme ça. Fait que ça m'inspire, mais j'ai aussi acheté le livre que j'ai pas encore eu le temps de lire de Michelle Obama. Tu sais, j'aime ça aussi m'inspirer de grandes femmes d'affaires qui ont réussi. Je lis aussi des fois, quand je vais en vacances, des livres plus personnels, des romans à la Guillaume Musso et tout. Mais oui, je trouve ça important. Puis surtout, j'essaie de l'implanter dans ma culture, de dire aux filles, prenez du temps à tous les jours pour faire de la vigie. Pour moi, de la vigie, là, c'est t'abonner à des infolettes. C'est quoi les brands qui t'inspirent? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi une vitrine que tu trouves belle? Une belle pub, n'importe quoi, t'sais, une annonce sur aller lire un peu sur aussi qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, t'sais, j'ai des tendances, ça va être quoi le Black Friday cette année? Juste s'informer un peu. Ça, je valorise vraiment, vraiment ça. Je pense que ça fait de toi une meilleure employée.
Intéressant. As-tu des routines? Il y a des gens qui viennent des fois sur le podcast qui nous parlent de des routines militaires matinales ou en soirée ou pendant le travail. Est-ce que tu as une manière de te préparer avant de commencer à travailler?
Je suis très organisée parce que j'ai pas le choix. J'ai quand même trois enfants puis j'ai un horaire assez chargé. Alors, j'ai appris à faire des coupures parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'il y ait comme l'image de tout le temps de maman qui a tout le temps été, qui est tout le temps préoccupée, tout le temps sur son téléphone. Je pense que c'est important de décrocher. Au début, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est normal. N'importe quel entrepreneur travaille tard le soir, tu relis tes courriels, t'as pas eu le temps de faire, t'es tout le temps comme on. Mais à un moment donné, ça fait que tu te couches, je pense à ça la nuit, je me lève le matin, ça fait que tu es comme fatigué mentalement. Fait que j'essaie de vraiment faire des coupures. Mais oui, le matin, tu sais, pendant que mes enfants déjeunent, j'ouvre mon ordi, ça, c'est ma première routine, puis je vais checker, y a-tu des courriels importants, parce que moi aussi, y a des décalages horaires. Exemple, mon manufacturier peut m'avoir écrit pendant la nuit ou tout ça. Donc, je planche un petit, comme, 15-20 minutes le matin. Après ça, je vais aller porter. Après ça, je travaille. J'essaie d'éclencher le plus possible toute la journée. Puis, mais quand c'est fini le soir, j'essaie de vraiment terminer. Puis, s'il y a des urgences, les filles me textent ce soir, mais j'essaie de faire une certaine coupure.
C'est important. C'est la seule manière à un certain point de s'en sortir. Là, si on est toujours connecté à 200%, ça va être difficile de... À un moment donné, on va juste en avoir trop. Là. Donc, il faut faire des distinctions, il faut faire des coupures. Je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Mélissa Lambert, avant de te laisser filer, où est-ce que les gens pourraient peut-être en apprendre un petit peu plus sur vous? Est-ce que la meilleure manière, ça serait votre site web? Est-ce que vous êtes très actif sur les médias sociaux pour bien situer les gens qui nous écoutent?
Oui, ben définitivement notre site web, mais pour vraiment nous suivre et connaître un petit peu plus notre ADN et tout, on est très fort sur Instagram. C'est vraiment là qu'on fait plein de stories, même pour voir un peu l'envers de notre décor, tu sais, quand on travaille, quand on fait des shoots photos, on publie quand même beaucoup de contenu, on fait des Facebook Live aussi. Donc Facebook et Instagram, c'est quand même aussi deux bonnes plateformes pour nous suivre.
Bon, ben c'est merveilleux. Mélissa, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui, de nous partager un petit peu ton histoire entrepreneuriale qui vous a donné vraiment une hyper-croissance là, depuis votre passage, surtout à l'œil du dragon. C'est super gentil.
Pour
les gens qui nous écoutent, ben on se dit à bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt, là, bye-bye. J'espère que le 46e épisode de Hypercroissance vous en aura appris un peu plus sur les coulisses de la fameuse émission Dans l'œil du dragon. Également, comme plusieurs entrepreneurs étant venus sur le podcast dans les 6 derniers mois, Mélissa a été capable de trouver des solutions en plein temps de COVID afin de rester profitable et ainsi assurer un emploi assez effectif. Chapeau Mélissa, c'est très bien fait. Également, je tiens à le mentionner, au cours de la prochaine année, je souhaite amener une parité dans le podcast en ayant autant de femmes entrepreneurs que d'hommes venant nous parler de leur parcours. Je vous invite donc à nous contacter personnellement si vous connaissez des femmes d'affaires qui auraient leur place sur le podcast. Mon email personnel est agangacommercialj7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, media au singulier.com. Et je le répète, ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.